l'avez lu. Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 21 mai 2022. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, le prix de l'essence explose ces temps-ci, je pense que tout le monde le sait, mais là, il y a une hausse des prix pour les bornes de recharge du circuit électrique du niveau 2.
Oui, effectivement, là, donc les bornes qu'on retrouve principalement en milieu urbain, à compter du 1er juin, il y aura un ajustement des tarifs pour ce type de bornes-là. Donc jusqu'à maintenant, les gens payaient 2,50 $ pour les bornes à tarif fixe.
Ouais.
Et sinon, il y avait un tarif horaire de 1 $ de l'heure calculé selon le temps où le véhicule est à la borne. Mais là, ça change à partir du 1er juin. Donc, pour ce qui est du tarif horaire, il variera de 0 à 3 $ et ce sera établi, ça, par le propriétaire de la borne. Je m'explique. La borne n'appartient pas à Hydro-Québec ni à, au circuit électrique. D'ailleurs, je croyais le contraire, mais c'est pas ça. Donc, si une borne est située sur la rue, ben, elle appartient à la municipalité. Si elle se trouve dans le stationnement d'une quincaillerie, par exemple, elle appartient à la quincaillerie.
Okay.
Donc, ce sera au propriétaire de la borne de fixer le prix. On peut s'imaginer que pour attirer certains clients, le prix sera peut-être plus bas, mais dans le cas de certaines municipalités, on peut s'imaginer que ça va être 3 $.
Okay.
Oui. Puis quand il y aura des frais associés au parcomètre en plus, ben ça finira par être coûteux tout ça.
Ouais, ouais.
Pour ce qui est du tarif fixe, peu importe la durée, et ben là la plage est très grande parce que ça variera entre 0 et 10 $. Donc c'est très très
pour une borne de niveau 2.
Oui, 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 oui.
Oh, c'est intéressant.
Donc j'imagine que ça va inciter les gens à faire davantage de recharge à la maison, mais oui, je trouve ça un petit peu...
Parce que là, 10 $ pour une borne de niveau 2...
Mais ça se peut que ce soit 1 $ aussi. C'est ça qui est... Il y en aura de tous les prix et ce sera indiqué, en fait, sur l'application du circuit électrique. Ce ne sera pas une surprise quand on arrivera à la borne. La batterie est complètement à terre. Là, ce sera indiqué. Donc, les gens magasineront leur station de recharge, je sais pas, mais ça forcera une attention particulière. Là.
Wow, OK. Fait que ça c'est à vérifier. Maintenant, il y a General Motors qui a dévoilé... Il y a Honda qui a dévoilé son premier véhicule électrique qui utilisera, bon, c'est un gag, là, mais dans le fond, Honda présente des premières esquisses de son Prologue, mais essentiellement, c'est un produit GM avec une carrosserie Honda. Là.
Oui, c'est très long avant que Honda emboîte le pas, finalement, dans...
À reculons,
oui. Parce
avec
qu'on
un
est...
goût très amer dans la gorge.
J'ai l'impression, hein. On a vu cette semaine, là, des premiers... un premier aperçu de ce à quoi ressemblera le Prologue. Ça m'a l'air d'un gros VUS très, très aplati, là. J'imagine que...
Ça sent le CRV électrifié, là, si tu veux mon avis.
Ça m'a l'air un petit peu plus gros, mais en même temps, sur une image 3D, c'est difficile d'avoir ses repères. Mais oui, comme tu le mentionnais, c'est un véhicule qui est produit et qui est développé en partenariat avec General Motors. Donc, il sera bâti sur la plateforme Ultium de GM. Donc, il y aura un peu d'Américains dans ce véhicule-là.
En fait, on peut s'imaginer que ce Honda-là sera autant un Honda que la Supra est une Toyota.
Ça pourra ressembler à ça. Et suite au Prologue de Honda, on aura aussi droit à une version
Acura en 2025.
Effectivement, qui suivra l'année prochaine. Mais l'échéancier me paraît très loin. Là, les gens veulent des véhicules électrique aujourd'hui, maintenant. Bon, ils vont l'avoir dans un an ou deux, mais d'arriver avec un véhicule en 2024 qu'on va te livrer en 2026, je commence à trouver que ça fait loin un peu, là.
Et c'est le cas aussi chez Chrysler, hein?
Oui, avec le Airflow, c'est pas demain qu'on l'aura, là.
Sauf que Chrysler développe son propre véhicule et sa propre plateforme.
Est-ce que c'est une bonne chose?
Ben, en fait,
on s'est développé avec Stellantis à l'échelle mondiale.
Ça semble un peu plus sérieux. À suivre.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, t'as conduit, toi, cette semaine, la BMW M240i X-Drive, que j'ai adoré. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bien, en fait, j'ai vécu moins d'émotions à bord de cette voiture-là que je ne l'aurais pensé.
OK. Je
veux pas te dire que j'ai été déçu, parce que pour moi, c'est une extrêmement belle machine, mais... Effectivement, ça me semble très robotique, ça me semble tout planifié, il y a pas beaucoup de place pour les manipulations du conducteur.
Bon, il n'y a plus de boîte manuelle.
Il n'y a plus de boîte manuelle. Ça, pour moi, c'est un élément qui est décevant. Et je la trouve un petit peu moins belle, la nouvelle série 2 coupée, comme... le modèle essayé, je la trouve un peu moins belle qu'auparavant. Tu sais, ses ailes bien rondes, bien larges. J'ai l'impression qu'on ne retrouve plus ça. Même chose pour... La partie avant est pour moi très belle, mais l'arrière, les feux sont moins...
C'est tronqué,
C'est moins distinctif que ça l'était par le passé. Cela dit, bon, la version d'essai était peinte en Thunder Night métallique, qui en bon français c'est aubergine métallisée. Donc de ce côté-là, oui, ça en met plein la vue, c'est chic, c'est beau. Puis bon, je te disais ne pas avoir vécu de très grandes émotions. C'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres, de 382 chevaux dans une voiture de petit format, là. Petit, une série 2. Donc, oui, les accélérations sont épatantes. La tenue de route est au rendez-vous, je te le confirme. Puis la sonorité,
c'est celle d'un 6 de BMW.
On est chez BMW avec un 6 cylindres et ça, il n'y a pas grand-chose pour égaler ça. J'ai regardé un peu les ensembles d'options pour le véhicule. Il n'y en a pas tant que ça.
Non, c'est ça, ironiquement.
Souvent, on a le réflexe de penser que tout ce qui est Audi, Porsche, BMW, Mercedes...
C'est vrai dans des gammes de VUS dans des grandes berlines, mais là-dedans, c'est des produits plus de niche.
Il y a trois ensembles d'options. Un qui me paraît plus intéressant, l'ensemble premium qui vient avec les phares adaptatifs, qui vient avec un meilleur système de son... mais tout ça pour dire qu'à 65 000 $ incluant cet ensemble-là que j'aurais tendance à recommander, on a toute une machine entre les mains. Et je me demande à quoi on peut la comparer. Elle est un peu seule au monde, là.
Elle est un peu seule au monde, puis il n'y a plus beaucoup de coupés dans ce segment-là.
Parce que la série 2 elle-même, on va la comparer à quoi? Une CLA. Bon, il n'y a plus de classe A. On va la comparer à la famille A3, S3 chez Audi.
Mais là,
on a un coupé là, chez BMW. C'est ça qui est rafraîchissant, qui est intéressant. Et pour moi, elle est vraiment seule au monde.
En termes de prix, on peut se comparer à une Lexus RC 350, mais...
C'est différent.
C'est très différent.
Mais en même temps, c'est ça. Des coupés, il n'y en a pas beaucoup. La RC est un peu plus grosse, là.
Ouais, un peu plus bourgeois, là.
Cela dit, j'ai pas plus envie de m'asseoir à l'arrière d'une RC que de la M240i, là, parce que, je le mentionne, là, il n'y a pas de place.
Non, c'est ça.
Il n'y a pas de place. Alors oui, un beau moment passé au volant de cette voiture-là, mais sans grandes émotions. Je pense que c'est ce que j'ai retenu de cet essai-là. Toi, Antoine, tu as conduit le Toyota BZ4X 2023.
Ouais, j'essaie d'oublier le nom, là.
Oui. C'est un exercice de diction. Il faut le prononcer
c'est
avec...
C'est pas une bonne idée.
Non.
T'sais, le nom, c'est pas une bonne idée. BZ pour Beyond Zero 4, parce que c'était à la mode de mettre un 4, parce que c'est un X, parce que c'est un pseudo 4x4. Et ironiquement, la version que j'ai conduite, c'est une version traction.
Donc, est-ce que c'est un B2Z 4X?
Bref. Ils n'ont pas vendu de RAV2 non plus.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Puis de Two Runner. Parce qu'un 4Runner, ça s'est fait en version propulsée aux États-Unis. Mais bref. BZ4X, premier véhicule électrifié de masse chez Toyota, bien qu'on ait vendu des RAV4 électriques pour le marché californien à plusieurs reprises.
Assemblé en Ontario, non?
Notamment assemblé en Ontario, mais la première version, c'était une version japonaise, vendue en 1997. On remonte à loin, là. Alors, c'est pas parce que Toyota n'était pas capable d'en faire des véhicules électriques.
C'est parce qu'on voulait
rien savoir. Mais là, on arrive avec un véhicule, je dis de masse. Attention, parce que la production ne sera pas si grande que ça. Puis, on estime que à peine quelques milliers d'unités toucheront le sol canadien. D'ailleurs, elle ne sera vendue, cette voiture-là, qu'au Québec et en Colombie-Britannique. Tu ne pourrais pas t'acheter ça en Ontario, par exemple.
En même temps, quel est l'intérêt dans les provinces de l'Ouest d'acheter ce véhicule-là?
Bien, en fait, il commence à y en avoir des crédits gouvernementaux applicables au fédéral. Alors, tu sais, ça pourrait être un peu pertinent, mais on n'a pas de volume et on sait que le plus gros marché se situera dans ces deux provinces-là. C'est un véhicule qui est développé en collaboration avec Subaru, mais il n'y a pas beaucoup de Subaru là-dedans, hormis le fait qu'on a travaillé sur le système de rouage intégral que je n'ai pas essayé. Soit dit en
passant. Parce que c'est une version à deux roues motrices.
C'est ça. Et alors, chez Toyota, tu as des versions à deux à quatre roues motrices. Subaru n'aura que des quatre roues motrices et on dévoilera les prix dans quelques semaines chez Subaru. Hâte de voir comment on va jouer cette carte-là parce que la version à traction est celle qui permet aux autres d'être éligibles aux crédits gouvernementaux. Parce que si on partait avec un véhicule à 55 000 $ ben là, les mêmes crédits ne s'appliqueraient pas nécessairement. Bien que ce soit complexe là, de comprendre les crédits aujourd'hui. Là,
oui. On peut facilement s'y perdre et ça va changer dans les prochaines semaines. Là.
Bon, alors, le BZ4X, c'est quatre versions. Version L de base à 45 000 $ là, j'arrondis. Mm-hmm. 5 000 $ de plus, la version LE que j'ai conduite avec un petit peu plus d'équipement, mais c'est loin d'être un véhicule de luxe. Et tu tombes à la version XLE à 55 000 qui, elle, a le rouage intégral. Donc, si tu veux un véhicule bien équipé, t'es obligé de prendre le rouage intégral à 55 000 et remarque que c'est à peu près le même prix d'entrée pour un rouage intégral chez Hyundai avec l'Ioniq 5.
Oh oui, mais alors, on est nez à nez. Là.
On est nez à nez dans la stratégie de mise en marché des modèles. Et puis finalement, ben, t'as un modèle XLE Platinum qui, lui, est à 62 750 $
Est-ce que c'est ce qu'on va livrer le plus parce que c'est ce qui est le plus payant? Là?
Ben, on verra ce qu'on fabrique. Mais moi, j'ai l'impression qu'on va aller jouer dans les hautes. Puis Toyota affirme que 65 % des ventes seront du 4 roues motrices, donc ouais. 55 000 et plus.
Moi, qu'on se rappelle, là, quand le RAV4 Prime était arrivé, on était tout énervés, là, mais des versions SE, c'était 3 % des ventes. Là.
Ouais.
On voulait vendre du XSE avec l'ensemble technologie.
Oui, exactement. Alors là, moi, j'ai conduit la version à traction.
Oui.
Puis évidemment, il y a eu quelques nouvelles un peu bizarres là, concernant le modèle à rouage intégral qui sont sorties dans les dernières semaines, notamment le fait qu'on ne pouvait pas se recharger à partir de moins 20.
C'est très embêtant.
Ce qui n'est pas vrai. Ouais. Parce que la vérité, c'est qu'il faut que la batterie soit à une température en deçà des moins 20 degrés pour que les risques qu'on ne puisse pas recharger et uniquement sur une borne de niveau 3 se présentent. Une situation qui existe sur d'autres véhicules électriques, soit dit en passant. C'est juste que Toyota a été transparent et l'a dit. Mais ça affecte la batterie de la version à rouage intégral, qui n'a pas la même que la version à roue motrice avant, bien que la taille soit à peu près la même. Tu as 71,4 avec la traction, 72,8 avec le modèle à rouage intégral, mais deux fournisseurs différents parce qu'on n'était pas capable de fournir suffisamment de batterie à une seule usine pour les deux modèles. Alors, la version à traction ben, a cet avantage de pouvoir se recharger plus efficacement, plus rapidement, peut-on dire. On a une autonomie de 40 km supplémentaires annoncée à 409, donc 367 pour la version à rouage intégral. Et a aussi cet avantage de coûter moins cher.
Donc, il n'y a que du bon, là.
Moi, je pense que la version à traction, la LE à traction, est une formule très intéressante, une belle alternative à une Chevrolet Bolt EUV, par exemple.
Qui est un autre véhicule électrique à traction.
Qui est un autre véhicule
électrique. Parce qu'on parlait de la Ioniq, et c'est le cas de bien d'autres multisegments électriques. Quand on fait le choix des deux roues motrices, eh bien, on a les roues motrices arrière, ce qui ne plaira pas nécessairement à tous. Là.
Mais là, on a une version à traction. Et, bon, petit test. Moi, je suis parti de chez moi. Pleinement chargé, on m'affichait 434 km au compteur lorsque je suis parti de chez moi.
Ce qui est jusque plus, là, tout va bien.
Ben, jusque là, tout va bien parce que c'est plus que on annonçait initialement. Or, en activant le chauffage, Il fait 15 degrés à l'extérieur.
Oh oui, donc, le seul fait, il n'y a pas de dégivrage, il n'y a pas de siège chauffant, il n'y a rien. Là.
Le seul fait d'activer le chauffage ou la climatisation, l'autonomie passe de 434 à 338 km.
C'est ridicule.
Et là, ça, c'est affiché. Moi, j'ai posé des questions aux gens de Toyota pour savoir, bon, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi, une chute de 100 km ou de 20-25%.
Juste en allumant
le système. On n'est pas l'hiver, là. Et eux m'ont dit « Oui, mais l'affichage est très conservateur. » Alors là, j'ai pris la route. J'ai commencé mon premier segment de route. Chauffage éteint, donc pas de chauffage à bord du véhicule. Et effectivement, en faisant des calculs, c'était logique. L'autonomie à 430 km avait du bon sens parce que je consommais quelques 15 kWh par 100 km pour une batterie de 71,8. Ça marche. Ou 71,4, ça marche. Le calcul mathématique est bon. Active le chauffage, la consommation grimpe à 21,5 kWh par 100 km. Même consommation que ce qu'on avait constaté cet hiver avec une Ioniq à 4 roues motrices qui fait 320 chevaux. On en a 201 ici.
Et forcément, quand on a les deux moteurs et les 4 roues motrices, ça consomme plus.
Alors, la consommation énergétique du BZ4X est très élevée du moment où tu actives le chauffage et tu vas l'utiliser 80 % du temps, là, veux pas. Et ça sera quoi cet hiver? Donc, est-ce que le 338 va devenir 225 parce que tu comprends-tu? Alors, ça va chuter de moitié facilement.
Et pourtant, on dit avoir le système de thermorégulation.
Thermorégulation et pompe à chaleur, ce qui est très important.
Il n'y a pas de raison valable qui explique cette
hormis une technologie qui ne fonctionne pas bien. Et c'est visiblement ce qu'on constate. Maintenant, alors ça, c'est la grosse déception de ce véhicule-là. Et je n'ai pas encore essayé la version à 4 roues motrices qui risque d'être encore pire. Parce qu'on
elle
dit.
Elle devrait consommer encore plus.
Ben, elle va consommer plus. On dit que c'est une batterie qui est visiblement moins efficace parce que celle-là ne peut pas être rechargée l'hiver ou, disons, aura plus de difficultés à être rechargée l'hiver par temps très froid que celle de la version à traction. Ça augure pas très bien, si tu veux, mon avis. Maintenant, je t'avoue que j'ai presque été étonné du comportement routier. Je m'attendais à un véhicule dole à mourir, là,
ouais.
Parce qu'on sait que des fois, des Toyota, c'est moins excitant à conduire que d'autres. Et là, ben tu sais quoi? Suspension indépendante aux quatre roues, direction qui est assez précise, 201 chevaux, mais ça a quand même du nerf. Le véhicule a cet avantage de ne pas être léger, mais d'être plus léger que ses concurrents. On est à 1900 kg, donc c'est lourd, mais c'est moins lourd qu'une Ioniq 5, c'est moins lourd qu'une V6. C'est le poids d'une Bolt, mais c'est un véhicule plus gros. Alors, ça, c'est un petit avantage, tu veux, à mon avis. Puis au final, le comportement, c'est pas mal. Ce que j'ai pas aimé, par contre, c'est le fait que l'instrumentation soit placée au-dessus du cerceau du volant. C'est contre-intuitif au niveau de ce que...
La lecture est complexe.
La lecture est pas évidente. Et ça, ben ça s'explique par le fait que les ingénieurs au Japon, eux, ont développé un volant scié en deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie supérieure au volant, comme dans une Tesla Model S.
Ben, chez Transport Canada, ils sont pas fans de ça.
Non, hein? Alors, ils ont décidé de mettre un volant conventionnel et ça donne cet effet-là, c'est-à-dire d'avoir une visibilité assez particulière. Là. Ça demande adaptation, vraiment. Mais sinon, les sièges sont confortables, ça se conduit bien, c'est facile.
Il y a
facile.
De l'espace?
Oui, il y a de l'espace. Il y a un beau volume de coffre, là, 750 quelques litres dans le coffre. Alors, c'est quand même... J'ai hâte de faire un essai comparatif. La version à traction me semble plus intéressante que le modèle à 4 roues motrices, mais il faudra l'essayer cet hiver parce que l'autonomie, dès que tu actives le chauffage, c'est un sérieux problème.
Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Germain, cette semaine, il y a eu une déclaration de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ça m'a donné le goût de faire Paul Saint-Pierre, voyons donc, parce que là, c'était un petit peu osé comme affirmation, celle du plafond du prix de l'essence que lui pensait pouvoir...
Imposer,
exactement. Et ensuite, il y a Mario Dumont qui a fait un commentaire assez direct, je pense, à ce propos-là. Alors, il est avec nous présentement. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Salut.
Bon, écoute, j'aimerais ça que tu reviennes sur ton commentaire de ce lundi parce que évidemment c'est une affirmation qui laisse pas indifférent et comme ça concerne à peu près tout le monde en ce moment, ben on se demande si c'est quelque chose qui est véritablement possible de faire un plafond là quand on est au Parti québécois là comme ça.
Ben d'abord mettre un plafond, c'est déjà un gouvernement qui se met à fixer les prix. On s'entend qu'on embarque dans quelque chose d'un peu bizarre, mais mettons qu'on disait on accepte de le faire, est-ce que c'est faisable? Parce que le prix à la pompe, là, dans les fêtes, là, je veux dire, c'est pas là qu'il se fixe le prix. Là. Le prix, il se fixe mondialement, il se fixe un prix du baril.
Ouais.
Nous, au Québec, on a trois raffineries. Par exemple, les gens qui voyagent dans le coin de Lévis, il y en a une qu'on voit bien. Là. Valero est là sur le bord de sur le bord de la 20 à Lévis. Ben, si Valero dit moi, là, au Québec, j'ai pas le droit de vendre plus que tel prix. Là. Fait que le baril, moi, faudrait pas que je le paye 109 piastres US là, comme il se vend. moi, je peux juste te donner 80.
Ouais.
Mais là, ils vont dire à 80, on n'en vend pas. Là. Pareil comme si tu vas à l'épicerie et tu dis moi la boîte de céréales, je ne vais pas payer 5 piastres, je vais payer 1 piastre.
Ouais.
L'épicier va dire ben, on ne chicanera pas, mais à ce prix-là, je t'en vends pas. Laisse-le sur la tablette. Fait que c'est difficile d'imaginer comment le Québec pourrait s'approvisionner. Là, si tu... Bon, à moins que quelqu'un accepte de prendre la perte, d'acheter des barils plus chers et de les vendre à perte, mais qui va faire ça? Donc c'est difficile de se l'imaginer. Le seul scénario où ça pourrait être imaginable, c'est si le Québec était un producteur. Et là, le gouvernement pourrait faire un peu un coup de jarnac comme avait fait Pierre-Éliott Trudeau père, là, t'sais, avec la loi de l'énergie dans les années 70, où il avait dit ben nous, le Canada, on est un producteur de pétrole, puis pour que les consommateurs au Canada souffrent moins, ben on va quasiment nationaliser, ou en tout cas, on va prendre par une loi, on va forcer nos pétrolières à nous vendre à nous moins cher. Si le Québec produisait assez de pétrole qu'on se le vend à nous-mêmes, on dit, regarde, nous, on le vend pas, on vend plus nos barils au prix mondial, on perd de l'argent, mais on s'assure d'avoir un approvisionnement local à moindre coût. Mais dans la mesure où au Québec, on n'en produit pas, comment on peut s'en procurer sans payer ce que ça coûte mondialement? D'ailleurs, je conclure ma réponse avec ça, si ça se faisait, là, entre vous et moi, là, il y a plein de pays qui l'auraient fait, il y a plein de pays, de provinces, il y a d'autres endroits qui l'auraient fait. Partout sur Terre, présentement, les consommateurs sont fâchés du prix de l'essence.
Alors, sur quoi il peut s'être basé, lui, pour sortir une affirmation comme ça?
C'est complètement farfelu, là.
Ben, regarde, il s'est basé sur le fait que dans certains pays, il a pris, pour exemple, la France, il existe dans une loi, là, quasiment une loi sur les mesures de guerre, ou une loi sur les mesures d'urgence, des dispositions disant que un gouvernement pourrait avoir le pouvoir à des périodes temporaires de forcer les entreprises, comme les pétrolières, à vendre à un moindre prix. Mais, tu sais, je comprends, là, une loi sur les mesures de guerre, les mesures d'urgence extrêmes. Mais c'est en France, là, ils ont ça dans leur loi. Mais ils l'utilisent pas, là. C'est présentement en France, le prix de l'essence a augmenté comme ailleurs parce que pour les mêmes raisons que je viens toutes de vous expliquer,
ben oui.
Là. Présentement en France, s'ils payent pas le prix du baril de pétrole, ils en produisent pas, ben, ils en auront pas, là. C'est assez simple. Quand tu payes pas le prix d'une chose, le prix que ça se vend, comme disait ma mère, on chicanera pas, mais je t'en vends pas, tu sais.
Tu as suivi le dossier depuis le début de la semaine, même si ça peut faire plaisir à certains consommateurs, est-ce que tu as observé une certaine lucidité de la part des gens qui ne croient
même
pas aux licornes roses enchantées, là?
Ouais, quand même. Je pense que les gens, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, sincèrement, qui ont cru à ça. Ceci dit, moi, je dis, si on veut, ben là, je suis à contre-courant. La mode, présentement, les partis politiques, la plupart, incluant le Parti québécois, là, ils ont dit, ben là, il faut plus que la caisse de dépôt. Nous autres, le pétrole, c'est sale. Le pétrole, c'est les changements climatiques.
Ouais, ouais.
Donc, il faut plus qu'on soit actionnaire des compagnies de pétrole. Il faut que la caisse de dépôt, par exemple, la caisse de dépôt a des centaines de milliards de notre argent, nos fonds de la Régie des rentes du Québec à investir. Il faut qu'ils placent ça. Ben moi, je dis, si on veut profiter, si vraiment on est choqué de l'ampleur du profit des pétrolières, mais la seule solution, c'est d'être actionnaire. Achète-en des actions, puis paye un dividende. Il paye des 4-5% par année de dividende, plus la croissance des actions. Et
mais c'est salissant, ça, pour les mains et les...
Mais là, c'est ça. Mais là, moi, ce qui me concerne, là, le pétrole, là, moi, je reconnais là, qu'il faut en sortir. Je reconnais le changement climatique. Mais c'est quand même pas... C'est pas, je veux dire, c'est pas un produit... c'est un produit qu'on vend à tous les coins de rue, là.
Non, c'est ça. C'est pas comme un club vidéo, là. C'est pas dépassé, là.
Non. C'est encore là. C'est légal. Il y a des stations-service à tous les coins de rue. Des Québécois honnêtes avec de l'argent correctement gagné mettent de l'essence dans leur véhicule pour aller conduire les enfants au soccer. Et c'est pas un scandale. Donc, si les pétrolières, quand le pétrole se vendait au cœur de la pandémie, je pense que le baril avait descendu à 30$, mais les pétrolières, ils mangeaient leur bas puis ils ont perdu des milliards.
Ouais.
Mais on se comprend, là. Avec le pétrole à 110$ le baril, 112, je pense, un matin, on se comprend que les pétrolières font beaucoup d'argent, vont faire des profits énormes cette année. Puis si, à place de chialer, si vraiment on veut être sérieux, puis on dit nous autres, là, ces profits-là, on les trouve gros, ben là, assurons-nous d'en être actionnaires. Demandons à notre caisse de dépôt d'acheter au maximum des actions des pétrolières pour en profiter. Puis si on dit, mais pour des raisons d'éthique, de politique, de morale, on veut pas toucher au profit des pétrolières, ben c'est notre choix, mais là, chialons pas contre notre propre choix, là, contre notre propre décision qu'on a pris pour des raisons autres qu'économiques ou des raisons dites morales, là.
Paradoxalement, évidemment, il y a énormément de taxes sur l'essence ici au Québec. Comment c'est calculé, ça? Puis dans quelle mesure ces taxes-là impactent le prix du carburant? Parce que c'est un pourcentage, évidemment, c'est pas un montant fixe.
Non, c'est un montant fixe. En fait, attention, soyons précis. C'est principalement des montants fixes, donc ils n'augmentent pas avec l'augmentation. Tu sais, que l'essence soit à 1$ ou à 2$ là, à la pompe, ça n'augmente pas, sauf la taxe de vente, évidemment, la TVQ, la TVQ, ça c'est un pourcentage, on se comprend, mais la plus grande partie des taxes sur l'essence sont fixes, donc il n'y a pas vraiment... Pour ça, quand les gens disent de détaxer l'essence, on pourrait, là, temporairement, en disant là le coût est tellement élevé qu'on pourrait donner un break aux gens temporairement en enlevant une taxe sur l'essence. Mais c'est pis. La partie qui est proportionnelle, donc la partie TPS-TVQ, qui, elle, augmente avec le prix, c'est ça, c'est un pourcentage. Ben là, Bernard Landry, là, Monsieur Landry, qui est décédé aujourd'hui, nous expliquerait, ou vous expliquerait en nombre, parce qu'il nous l'avait expliqué plusieurs fois à l'Assemblée nationale, que oui, le gouvernement, quand le pétrole monte, ramasse un peu plus d'argent sur ses taxes de vente.
Ouais.
Mais le gouvernement, c'est aussi la Sûreté du Québec qui met de l'essence dans ses véhicules. Le gouvernement, c'est aussi le ministère des Transports qui a un paquet de camions sur la route. Le gouvernement, c'est aussi la faune, les agents de la faune qui ont des pick-up dans les bois pour surveiller la chasse et la pêche. Puis là, je pourrais continuer comme ça. Donc, le gouvernement a des revenus supplémentaires, mais aussi des dépenses supplémentaires parce qu'il a une gigantesque flotte de véhicules où à chaque jour, des fonctionnaires, des employés de l'État qui ont une carte du gouvernement, une carte de crédit du gouvernement, vont faire le plein au nouveau prix, là, tu sais.
Oui. Bon, OK. Mais je veux dire, je pense pas que l'utilisation des véhicules du gouvernement soit proportionnelle avec...
C'est un petit pourcentage, là, j'imagine.
Quand même. Je veux dire, ça doit effacer, je dis pas totalement, mais ça doit effacer une grosse partie des gains supplémentaires de TVQ, là, sur le nombre de véhicules, le nombre de kilomètres des véhicules qui sont tout le temps sur la route. Oui, quand même. Donc le gouvernement fait, oui, un peu plus d'argent là-dessus, mais bon, est-ce qu'il pourrait, tu sais, parce que c'est est-ce que tu pourrais détaxer le Parti conservateur, par exemple, d'Éric Duhem, demande d'enlever l'application de la TVQ. Mais tu sais, c'est plus facile dans l'opposition. Si tu faisais ça demain matin, t'as deux problèmes. Un, faut que tu reprogrammes les caisses, les stations-service. Puis là, si le prix rebaisse, mettons qu'au mois de septembre, le prix rebaisse, le prix mondial se calme. C'est quoi, là, tu vas aller les reprogrammer, là, le monde va être en maudit parce qu'ils vont dire que là, tu remets une taxe de plus sur
le
temps.
C'est dur de revenir en arrière.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le gouvernement se dit, ben regarde, on serre les dents. Et là, il n'y a pas, ça peut pas être plate, il n'y a pas de gros signaux que ça va rebaisser. Ça a l'air qu'on n'a même pas encore vu le pire là, de la crise de cette année.
Moi, j'ai le feeling que les vacances de la construction, ça va être pas mal.
Ils vont se passer sur. Ouais. Ça va être les vacances du balcon, là, j'ai l'impression.
C'est sûr qu'on a. Moi, je pense à des connaissances là, qui me racontaient avec fierté l'année passée, l'année d'avant. Ah, avec la pandémie, on peut pas voyager à l'étranger. L'argent des billets d'avion, puis ça, on a mis ça sur un VR. Puis qui avaient adoré ça, leur VR. Puis l'essence était descendue à 1$ le litre pendant la pandémie.
Mais un VR là, à 30 ou 35 litres au 100, cet été, on va trouver que ça fait un peu plus mal. Là.
Ben c'est ça. Là. Tu vas faire le plein de ton VR, puis ça coûte, la facture est d'un 4 chiffres. Le cadran sur la pompe est d'un 4 chiffres et d'un 1000 piastres. Faire le tour de la Gaspésie, ça va être moins rigolo, je pense. Là.
Le fait de détaxer, justement, le litre d'essence, est-ce que ça n'aurait pas comme effet d'ouvrir, finalement, la porte aux pétrolières pour qu'elles augmentent leur part de profit? Parce qu'on... L'humain est quand même une bête d'habitude. Là, on parle du prix du litre d'essence, mais ça va devenir une nouvelle habitude. La preuve, ça baisse de 2 sous, mais on est quand même bien en haut du 2$, puis on est tout heureux, là.
C'est une bonne observation. Oui, c'est une chose que les gouvernements craignent, de dire, moi, je baisse, mettons, une des taxes, là, mettons, je baisse de 10 cents le prix d'une taxe, puis finalement, les pétrolières, même s'ils prennent pas le 10 cents au complet, mais s'ils augmentent le prix de 3-4 cents en disant, ben regarde, le gouvernement nous donne un petit peu d'espace, on va aller chercher ça en profit. Et là, le gouvernement a comme l'impression quasiment de se faire voler, là, d'avoir donné aux pétrolières un peu d'espace pour aller augmenter leur prix. C'est une crainte des gouvernements. Je sais pas si c'est une crainte complètement justifiée, mais je peux vous confirmer que c'est une crainte que j'ai souvent entendue des ministres des Finances évoquer pour refuser de baisser les taxes sur l'essence. Mais tu sais, c'est présentement là, l'essence, c'est un ingrédient d'un problème plus large d'inflation. On est dans une période. Puis bon, c'est sûr que ça y contribue. Là, le pétrole contribue au transport qui fait augmenter le prix des fruits et des légumes. Mais on est dans une période où le gouvernement vit avec un problème d'inflation qui est pas juste sur l'essence, là, qui est sur un grand nombre de biens essentiels. Puis ben là, c'est ça, c'est les hausses des taux d'intérêt, c'est tout le resserrement qu'on doit faire du crédit pour essayer de calmer l'inflation d'ici la fin de l'année ou quelque part en 2023. Donc le pétrole est un facteur là-dedans.
Malheureusement, on est un peu trop loin de l'Alberta pour pouvoir aller faire le plein là-bas et revenir chez nous et penser avoir économisé. Ça, c'est dommage. Mais l'Alberta, évidemment, ont un gel des taxes là-bas sur l'essence, produisent de l'essence. Quelle est la réalité là-bas et comment on gère ça par rapport à chez nous?
Ouais, ben là, l'Alberta, on se comprend que là, Eux, ils en profitent en double, parce que oui, les consommateurs payent moins cher. Il n'y a pas de taxe de vente. Ils n'ont même pas de taxe de vente là-bas. Donc, déjà, sur le prix de l'essence, ça a un impact. Ils ont un prix d'essence moins élevé. Ils ont un peu moins de taxes aussi autres que les taxes de vente. Donc, ils payent vraiment, je ne sais pas il est à combien, mais il doit avoir un écart de quelques dizaines de sous. Quoi qui a augmenté là-bas aussi. Le prix du prix mondial a augmenté. Sauf que dans le cas de l'Alberta, leur gouvernement va avoir de la marge de manœuvre. C'est que si les compagnies pétrolières roulent à fond de train, payent des redevances à la province, etc. Si l'Alberta n'a pas de taxe de vente, trompez-vous pas, c'est parce qu'ils ont le pétrole. C'est le pétrole qui a permis à cette province-là d'être riche, la province qui a les plus hauts niveaux de revenus, les revenus privés, les revenus moyens des ménages, c'est là qui est le plus élevé au Canada. Ils ont vécu des mauvaises années. Là. Le budget de l'Alberta est tombé dans le rouge avec la pandémie, avec la baisse du prix du baril. Et là, leur compagnie pétrolière qui ont leur siège social à Calgary, d'après moi, ils vont avoir 2022, ils vont avoir une bonne année, là.
Ouais. Ça c'est évident.
C'est payant pour les compagnies, mais c'est payant, ils payent des redevances, c'est payant pour le gouvernement aussi.
Évidemment, ici, on se retrouve dans un contexte où c'est pas nécessairement le pétrole qu'on veut pousser, c'est la voiture électrique. Et là, ben, on multiplie les ventes de véhicules électriques. On parlait de 13-14% de ventes de véhicules électrifiés vendus dans les derniers mois ici au Québec. Est-ce que ça veut dire que le jour où on aura, je dis pas une majorité, mais une quantité considérable de véhicules électriques sur nos routes, on peut s'attendre à ce que les taxes appliquées sur l'essence soient transférées sur l'électricité et qu'on voit notre facture d'électricité exploser?
Non. Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas.
Parce qu'il y aura un manque à gagner.
C'est parce qu'au niveau du gouvernement, on se prépare à ça. Là. C'est une transition qui se fait lentement, année après année. Qui, à mon avis, présentement, qui se fait encore plus vite. Si t'avais, à l'heure actuelle, si t'avais dans les cours, là, ben vous autres, s'il y a des gens qui suivent les cours des concessionnaires, c'est bien vous autres au guide de tour, là, mais
ça sonne écho. Ça sonne écho de ce temps-là,
Il se vendrait, là. Ça serait fou, là. Je veux dire, ça sortirait. Là, c'est qu'il n'y en a pas. Je veux dire, les gens vont visiter des concessionnaires, parlent de véhicules électriques, on leur raconte des délais d'attente de un an et demi. Fait que c'est certain que ça refroidit un peu. Les gens se disent, bon, est-ce que... C'est ceux qui sont convaincus d'un véhicule électrique qui s'en vend beaucoup, mais ceux qui sont moins certains, qui auraient peut-être été affectés par le prix de l'essence, ils se disent, ouais, là, dans un an, le prix de l'essence, il y a le temps de fluctuer de baisser quatre fois puis de remonter trois fois. Là.
Ouais.
Fait qu'on va attendre pour voir. Mais si tu avais de la disponibilité vraiment de véhicules électriques à ce moment-ci, là, disponible, c'est comme on dit, une belle rangée d'un cours comme on avait autrefois avec des types, ouais, sortes de véhicules, moi, je pense que ça sortirait comme des petits pains chauds.
C'est ça, ça c'est sûr. Mais à ce moment-là, c'est un peu, on revient à ce qu'on disait, il y aurait un manque à gagner de la part d'Hydro-Québec qui ne collecterait plus les taxes qu'on collecte sur l'essence lorsque les gens se rechargent même à la maison.
En plus du fait que ces véhicules-là sont subventionnés par le gouvernement, là.
Ouais, mais tu sais, je pense que dans l'ensemble des finances du gouvernement, dans l'ensemble des milliards qu'ils vont dépenser sur le dossier des changements climatiques, ça serait, même s'il y a un manque à gagner temporaire dans l'année en cours, je pense que le gouvernement verrait ça quand même comme un beau problème. Là. Il verrait ça comme quelque chose de plus compliqué. C'est plus compliqué de régler les changements climatiques que de régler un trou dans le budget, mettons, d'une couple de 100 millions. Là, donc, je pense pas que ça serait perçu comme un problème majeur ou une mauvaise nouvelle. Bon, il y a cette semaine, là, d'ailleurs, on parlait du Parti québécois, mais le Parti québécois, dans son plan, il y avait aussi ça, là, d'accélérer. Puis là-dessus, je serais curieux de vous entendre dire faudrait qu'on mette des pourcentages obligatoires, qu'on force les constructeurs à nous fournir plus de véhicules électriques, à en rendre disponibles dans les concessionnaires du Québec. Croyez-vous à ça? Est-ce que les concessionnaires se traînent les pieds, produisent pas assez de véhicules électriques,
produisent
pas assez au Québec?
La vérité, c'est que on est un trop petit marché dans un marché nord-américain pour penser pouvoir s'imposer face à un constructeur automobile mondial. Le Québec, c'est bien beau, mais dans un marché nord-américain, on représente 2,5 % du marché total. Tu peux pas arriver avec tes gros sabots puis dire...
Quand un politicien prend la parole puis dit qu'il va dire quoi faire aux constructeurs automobiles, vous autres, au guide de l'auto, vous riez un peu.
Je ris énormément et je trouve qu'on travaille de toute façon de la mauvaise façon, parce que plutôt que de donner des crédits sur un véhicule électrique, taxer le véhicule à essence. Là, il n'y a pas de contraintes pour vendre des véhicules à essence ici. Alors, on peut en amener autant qu'on veut. Il n'y en a pas de problème. On va les vendre. Alors que si tu vas du côté de l'Europe, c'est le contraire. Le véhicule électrique n'est pas subventionné. Mais si tu achètes un véhicule à essence, tu vas le payer peut-être une fois et demie, deux fois en taxes.
Ici, on n'a que la carotte, pas le bâton.
C'est ça. Fait que faut travailler. Ouais.
Mettre le bâton sur les véhicules à essence. Tu sais, mettons quelqu'un que son véhicule brise sérieusement, faut qu'il en achète un nouveau. Si tu le punis, s'il achète un véhicule à essence, mais que des véhicules électriques, il n'a pas disponible, le citoyen se retrouverait crucifié, coincé devant une impossibilité. Là.
Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, tu verrais l'industrie automobile s'ajuster et rapidement. On a déjà des problèmes actuellement uniquement avec des gens qui ont des véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui ont un accident ou qui se le font voler carrément et on n'est même pas capable de remplacer ces véhicules-là. Je parlais à des gens chez Toyota cette semaine. On a quelques cas de gens qui se sont fait voler leur RAV4 Prime, des véhicules qui ont sans doute été exportés. On n'est pas capable de les remplacer. Alors, tu fais quoi?
Donc, l'assurance est prête à payer, mais il n'y a pas de véhicule.
Il n'y a pas de véhicule.
On est coincé, là.
On est à ce point-là. Là, on parle de deux ans et demi, trois ans pour certains modèles. C'est carrément indécent comme délai. Je dis souvent la même chose, mais il y a une dame un jour qui m'avait dit... Vous êtes en train de m'expliquer que ma fille a le temps de finir son secondaire, de faire son cégep au complet avant que je me fasse livrer la voiture que j'ai commandée cette semaine. Ça n'a aucun bon sens.
Si elle n'est pas trop à cafétéria, c'est ça qui va arriver quand même.
C'est ça, exactement.
Ouais,
c'est ça.
Bon, on sait, Mario, que t'es pas un magicien, mais si tu avais un petit mot pour le consommateur moyen qui en arrache un peu en ce moment avec le prix du litre d'essence et qui voit justement l'été être... pas une catastrophe, mais pas loin, là.
Ouais. Ben, tu sais, je pense qu'il faut regarder, faut regarder toutes les options, là, pour faire des kilomètres inutiles, voir comment on peut s'arranger avec d'autres. Les solutions comme le covoiturage, ça n'a jamais eu autant de sens. Moi, ce que je dis aux gens, là, tu sais, puis là, ben, je veux pas, la vie de chacun, il y a des gens qui ont une santé fragile, il y a des gens qui ont beaucoup d'enfants. Mais tu sais, les gens qui ont de la disponibilité, l'inflation est là, puis l'inflation est là pour un an et demi. Là. À mon avis, ça t'en sort pas. Ouais. Fait que les deuxièmes jobs, là, c'est vraiment pas quelque chose à cracher dessus. Là. T'sais, les revenus d'appoint, la demi-journée, une soirée de plus, t'sais. C'est peut-être la façon de gérer l'inflation est 7-8%, mais tu vois, d'aller chercher un 7-8% de revenus de plus sans mettre tous tes loisirs en danger, mais je sais qu'il y en a qui... Parce que l'avantage que tu as présentement, c'est que tu vas trouver. Là. Tu veux travailler une soirée, ouais. Tu veux travailler quelques heures, il y a plein de possibilités. Présentement, on disait autrefois, il y a quelques années, là, les taxis et les Uber, ça se bat pour les clients. Présentement, il y en manque partout. Il y a plein de villes qui sont plus desservies. C'est quelqu'un qui veut faire quelques heures de plus, il y a toute une série d'options. Puis ce revenu d'appoint-là, ben c'est peut-être ce qui va te permettre de préserver tes loisirs, c'est peut-être ce qui va te permettre de rencontrer, là, de dire, ben moi, là, je veux garder mon auto, je veux continuer à le rouler, etc., ben voici comment je vais compenser pour le prix de l'essence. Ça, c'est quand même quelque chose, parce que, bon, à l'époque où le chômage était, quand j'étais jeune, le chômage était à 13%. T'sais, tu disais, trouver, tu avais déjà un job, tu étais chanceux, trouver un petit sideline, c'était pas évident. Mais là, tout le monde, si tu es débrouillard un peu, tu es capable de donner une petite prestation de travail, tout le monde cherche des gens, tout le monde cherche de la main-d'œuvre.
Puis c'est le
contexte qu'il faut mettre dans le décor.
Puis c'est la longue fin de semaine, fait que c'est le temps de faire des ventes de garage puis de vider à la maison des cochonneries aussi. Tu sais, on peut faire ça.
Moi, je vais aller flipper des boulettes pour remplir le réservoir de mon grand marquis.
C'est ça. En terminant, disons que tu es au pouvoir demain matin. As-tu une idée pour le prix de l'essence? As-tu un flash qui te vient?
Ah, moi, non. Non, moi, sincèrement, je vais être plate là-dessus. Moi, je suis au pouvoir demain, je m'occupe de plein d'autres affaires. J'essaie de... à la limite, je vais baisser les impôts, améliorer le sort des familles en général.
Mais t'accumules davantage de pétropoint.
Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, le prix de l'essence, là, moi, je... Quand t'es au gouvernement, là, t'acceptes que c'est un marché mondial. Peut-être que moi, par contre, je serais pas mal plus enclin à ce qu'on en produise un peu au Québec, là, qu'on profite, qu'on profite de la manne. Mais sinon, d'essayer de commencer à jouer, à zigonner sur le prix de l'essence, c'est une affaire de rien. Là, c'est d'affaires qu'à un moment donné, faut que t'acceptes au gouvernement. Fais bien ce que tu contrôles, puis fais pas semblant de faire des petits maigrés sur ce que tu contrôles pas. Là.
Donc, l'affirmation de Paul Saint-Pierre Plamondon...
C'est un peu farfelu.
Je vous dis comme je le pense. Je pense que Paul Saint-Pierre, on a 5 partis politiques maintenant au Québec.
Ouais.
Les élections sont cet automne. Les sondages sont pas faciles. Bon, c'est sûr qu'à 5, ils se divisent le vote. La CAQ est forte. Puis je pense qu'à un moment donné, tu te fais une réunion, tu te grattes la tête, puis tu te demandes comment on fait pour faire les nouvelles. T'sais, comment on essaie de percer l'actualité? Qu'est-ce qu'on trouve pour faire les nouvelles? Puis qu'il y a certaines idées qui normalement auraient été filtrées pour dire, ben voyons, on peut pas proposer ça, on fait rire de nous autres. Mais que là, ben si je vous le dis, vous me posez la question, je vous réponds crûment. Là. Je pense que maintenant, on arrive à se dire, ben là, tabarouette, ça tient à moitié de bout, là, mais on va faire les nouvelles avec ça.
Celle-là est passée à travers le tamis, là.
Ben, c'est-à-dire que ça a marché, là. Regarde, prenez sur mon critère de faire les nouvelles. Ça a marché.
Ouais.
Ils ont parlé d'un sujet dont tout le monde parle, puis ils ont fait les nouvelles.
Oui, bon, effectivement. Puis on en parle encore aujourd'hui.
Ben c'est ça. Est-ce que c'est une solution logique? C'est une autre affaire.
Merci beaucoup, Mario, de ton temps. Bien apprécié. Et puis, on verra comment ça va se promener. T'as-tu peut-être des prédictions pour le prix record à la dernière de juillet?
Hey, faire des prédictions sur le prix de l'essence. Ben moi, mon feeling, c'est qu'on s'en va vers... Je pense pas que ça va dépasser... 2,25, 2,30.
Non?
Ça va aller virer dans ce coin-là. Je pense pas que ça va dépasser ça, non.
OK.
On croise les doigts.
C'est ça, exactement.
On croise les doigts.
Merci beaucoup, Mario. Merci.
Salut.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, concluons l'émission en répondant à quelques questions des auditeurs. On a Martin qui nous dit qu'il est propriétaire d'une Mazda 3 Sport All-Wheel Drive 2019. Le constructeur lui dit qu'il n'est pas recommandé de remorquer avec ce modèle. Il est donc à la recherche d'un véhicule similaire qui lui procurerait le même plaisir de conduire sans que ce soit un VUS. Il a besoin de tirer une petite remorque sur laquelle il transporte sa motoneige. Qu'est-ce que tu as à lui proposer?
Moi, j'ai de la misère avec ce que Mazda mentionne au niveau des remorquages, parce que tu prends un véhicule, prends le CX-30, par exemple. Au Canada, capacité de remorquage, zéro. Aux États-Unis, 2000.
On s'entend, là. C'est le même véhicule. La seule différence, il y en a un qui a le compteur en kilomètres puis l'autre en mille. Là.
C'est... Oui, puis encore là, c'est numérique, fait que ça s'interchange.
Non, mais c'est le même, c'est le même véhicule.
C'est le même véhicule. Et la décision de Mazda, ils nous l'ont pas dit, mais c'est une question de garantie. C'est-à-dire que on considère...
Ah, parce qu'on a un kilométrage illimité au Canada.
Bien, non seulement ça, mais on considère aussi que un véhicule est davantage sollicité au Canada en raison des conditions climatiques. Les intervalles de changement d'huile sont plus rapprochés qu'aux États-Unis. Il y a des trucs comme ça. Alors, c'est une question de garantie, ni plus ni moins. Est-ce qu'on n'a pas confiance au véhicule à ce point-là? Écoute, c'est une bonne mécanique. C'est pas des moteurs, des transmissions qui font défaut souvent. Moi, je ne serais absolument pas inquiet de remorquer avec un CX-30 ou une Mazda 3 qui est la même chose. Mais je comprends que le constructeur pourrait décider d'abandonner une garantie si évidemment un problème se présentait. C'est une Mazda 3 2019. La garantie est sur le point de s'achever. Moi, je pense que de mettre un petit attache remorque, si on a besoin de tirer 1500 livres avec ça, c'est pas un trop gros problème. Dans les faits, là, ça se fait. C'est juste que le constructeur automobile, Mazda...
ne veut pas garantir son véhicule s'il remorque.
Voilà, puis c'est la vérité.
Mais le véhicule en est capable.
Ben voyons, t'as une Mazda 3 Sport qui est, bon, dans le pire des cas, là, si c'est un modèle all-wheel drive, veut pas, c'est minimalement 180 quelques chevaux, c'est capable.
Oh oui, on
absolument.
Est d'accord. On a Yann qui voudrait savoir ce que tu penses du Kia Sorento 2022. Il cherche un véhicule fiable et pratique pour la famille. Il ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois ou 1 an, comme c'est le cas avec d'autres modèles.
Correct pour le Kia Sorento, pas de problème, mais pas dans sa version turbo.
OK.
Pas plus compliqué que ça. Prenez un moteur de base.
Donc, d'aller dans des versions plus chères, c'est pas intéressant.
Tu prends le moteur 2,5 litres avec la transmission 8 vitesses. Ça fait un bon boulot. C'est correct. Je sais pas quels sont vos besoins en matière de remorquage, etc. Mais si on va dans la version turbo compressée avec la boîte double embrayage, le rendement est pas intéressant. Ça consomme. Il y a eu des problèmes de fiabilité. Moi, je toucherais pas à ça. J'irais dans la version de base. Puis pour
on a une meilleure valeur entre les mains.
On a une meilleure valeur entre les mains, puis c'est efficace, puis en termes de... Bon, je veux pas dire en termes de dépréciation, parce que de ce temps-là, de toute façon, ça s'applique à peu près
pas grand-chose qui déprécie. Hein?
Mais non, je choisirais une version avec le moteur 2,5 atmosphérique.
On a Eric qui dit que le Mazda CX-9 n'est pas bien coté dans la catégorie des VUS à 7 passagers selon ses observations. Il voudrait savoir pour quelles raisons. Sa conjointe et lui possèdent un Mazda CX-3 2019 qui est rendu beaucoup trop petit pour les besoins de leur famille.
Bien, le CX-9, c'est vraiment pas un mauvais produit. C'est juste que ce produit-là n'est pas à la hauteur de ce que la compétition va offrir, c'est-à-dire... un Kia Telluride, un Honda Pilot qui est beaucoup plus spacieux, beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus performant dans certains cas avec des 6 cylindres.
Les mécaniques des deux Coréens sont plus convaincantes que le 4 cylindres turbo compressé du Mazda. Là.
Mais ce 4 cylindres-là, si vous n'avez pas besoin de remorquer, si vous n'avez pas besoin de charger le véhicule à bloc, ça fait un bon boulot. C'est juste que en comparant le CX-9 avec les véhicules d'une même catégorie, le CX-9 n'est pas là. Mais si le produit vous convient, parce que c'est quand même un peu plus petit qu'un Telluride, si le produit vous convient, allez-y, j'ai pas de problème. C'est un véhicule fiable, c'est un véhicule efficace. Bon,
un petit peu vieillissant, mais si on est capable de vivre avec ça, il n'y a pas de problème.
Tranquillement, mais c'est quand même un véhicule efficace. C'est juste que c'est un peu comme le Subaru Ascent. Subaru Ascent, c'est un produit correct. Mais tu le places à côté d'un pilote, ça fait, je veux pas dire que ça fait parent pauvre, mais c'est moins polyvalent.
Oh, et oui.
C'est moins polyvalent et le problème, c'est que c'est souvent un prix qui est très semblable. Là, le CX-9, je veux pas dire qu'on est parlable, mais c'est pas le produit du mois.
On se l'arrache pas.
On se l'arrache
autres,
pas
là.
Et effectivement, ça explique pourquoi il y en a chez les concessionnaires, la disponibilité est quasi immédiate.
Merci Antoine. Bonne semaine.
Bonne semaine.